Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'ULB. Vous écoutez Histoire de savoir, l'émission qui vous éclaire sur les phénomènes scientifiques. Je suis Flavia Gauthier et je présenterai cette émission accompagnée d'Élise Vizé.
Bonjour.
Sur la compréhension du nucléaire et la place qu'il occupe en Belgique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, essayons de comprendre une chose, parce que personnellement j'en entends parler à tort et à travers, mais dans le fond, l'énergie nucléaire, c'est quoi ? L'énergie nucléaire, c'est une énergie qui vient du noyau des atomes, le plus souvent d'uranium. Ce noyau, lui, est composé de protons et de neutrons. Pour produire cette énergie, on a deux possibilités. On peut soit casser ces noyaux, c'est la fission, ou alors les fusionner. Mais le nucléaire, ce n'est pas que ça. Derrière ce mot, il y a plein d'autres phénomènes, souvent méconnus. Et justement, c'est ce que l'on vous propose de découvrir tout au long de cette émission.
Et récemment, Ursula von der Leyen a déclaré que réduire la part du nucléaire avait été une erreur stratégique de l'Europe. De son côté, la Belgique, qui envisageait initialement de sortir du nucléaire d'ici 2025, a finalement revu sa position. Elle prévoit désormais de prolonger son utilisation, au moins jusqu'en 2035. Finalement, en Belgique, le nucléaire occupe une place importante, mais pourquoi y sommes-nous autant attachés ? Je vous propose de découvrir les arguments favorables au nucléaire de Pierre-Étienne Labo. Professeur ordinaire à l'école polytechnique de l'ULB, il est spécialiste du nucléaire ainsi que de la sûreté des installations industrielles. Une interview réalisée par Flavia Gauthier.
Quand on parle d'énergie nucléaire, de quoi on parle exactement ?
On parle ici, plus spécifiquement, d'une exploitation des forces nucléaires. Donc on est avec la possibilité de, plus spécifiquement avec de l'uranium, fissionner cet uranium avec des neutrons qui vont bombarder les noyaux. Et dans cette fission, on va avoir un relâchement d'énergie qui va être récupéré, qui va servir dans une centrale à chauffer l'eau qui va être employée pour créer de la vapeur, et cette vapeur passe dans une turbine.
On confond les mots de fission nucléaire et de fusion nucléaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle est la différence ?
Oui, donc les mots sont tout à fait appropriés à ce qui se passe. Quand on parle de fission, on parle de noyaux plus lourds qu'on va essayer de fragmenter. Quand on parle de fusion, on va parler de noyaux légers qu'on va essayer de fusionner, donc de mettre ensemble. Il se fait en fait que dans ce qu'on appelle l'énergie de liaison des éléments, eh bien, on a un optimum, c'est-à-dire un gain d'énergie par ces réactions de soit de fission, soit de fusion, qui sera obtenu quand on va vers des éléments, l'optimum étant le fer, en fait, au milieu.
Pourquoi on a vraiment envie de sortir du nucléaire ?
Personnellement, je n'ai pas envie de sortir du nucléaire et je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie de sortir du nucléaire. Je pense que c'est la peur. Et souvent la peur de ce qu'on ne connaît pas, parce qu'évidemment, il y a eu tout au long du développement de centrales nucléaires et de leur opération, l'un ou l'autre accident qui a eu un gros impact sur l'opinion publique. Il y a évidemment les deux plus connus et les deux plus graves qu'il y a eu, qui sont l'accident de Tchernobyl en 86 et l'accident de Fukushima Daiichi au Japon en 2011. Chacun ayant eu un impact sur ce qui était à ce moment-là plutôt un essor du nucléaire qui se faisait. On a régulièrement aussi une politique qui fait que quand on est face à une difficulté, on a tendance à essayer de regarder une autre option qui peut être possible. Je pense qu'on a pu entendre aussi ces derniers temps avec le blocage du détroit d'Hormuz et autres que finalement, ça aurait été bien d'avoir un petit peu plus de capacité nucléaire plutôt que de devoir encore dépendre autant du gaz.
Donc vous parliez justement de cette peur collective du nucléaire, mais concrètement, quels sont les risques réels avec le nucléaire ?
Alors les risques réels, on peut bien sûr imaginer un certain nombre de scénarios et ils sont étudiés au niveau des démonstrations de sûreté des centrales, d'avoir une réaction qui ne soit plus sous contrôle, ce qui conduit en fait à avoir le cœur contenant le combustible qui ne serait plus refroidi complètement, une fusion, possibilité d'avoir le réacteur qui est endommagé, d'avoir le bâtiment réacteur qui soit endommagé avec un relâchement de mélange de gaz qui pourrait contenir des produits de fission radioactifs et donc un impact sur l'environnement et les populations. Donc ça, c'est effectivement ce scénario qui est a priori extrêmement peu plausible, même si on a des cas où ça s'est effectivement passé. Il faut quand même garder à l'esprit que Tchernobyl reste une exception. Bien sûr, il y a ce côté qui peut sembler toujours un peu effrayant d'aller au cœur de la matière, mais ce sont des choses que la nature a faites avant que l'homme essaie de l'exploiter. Il y a des traces d'un réacteur nucléaire naturel dans un petit coin d'Afrique. Ce sont des choses qui existent, qui sont exploitées comme d'autres facteurs. Mais il y a effectivement certainement ce côté de très grandes conséquences.
Donc vous pensez qu'un accident de ce type ne pourrait pas vraiment arriver en Europe ?
Alors, il y a peu de chances que ça puisse se produire, tant que l'on peut maintenir aussi les compétences nécessaires pour faire fonctionner les centrales correctement. C'est le fait de garder les compétences nécessaires pour alimenter, je dirais, toute l'infrastructure de sûreté qui est nécessaire dans un pays. C'est pas seulement une question d'avoir des opérateurs qui soient responsables et bien formés, c'est aussi d'avoir les opérateurs de la sûreté, de la régulation du secteur, qui aient les compétences aussi pour le faire.
Et donc aujourd'hui, quelle place occupe le nucléaire dans la production d'électricité en Belgique ?
On est dans un contexte de réchauffement climatique qui conduit à avoir des politiques de décarbonisation, ce qui veut dire que le recours à des centrales au gaz, mais on le fait, mais parce qu'on n'a pas nécessairement pensé correctement au mix énergétique que l'on pouvait avoir. Donc on prévoit une augmentation de la charge, de la consommation qui est très importante. Et on voit se réduire de plus en plus la capacité de production d'électricité que l'on a et qui soit pilotable. Quand je dis pilotable, ça veut dire que ben, quand on a besoin de la production, on peut appuyer sur « on » et on va l'avoir. Hors de période de maintenance et de petits soucis qu'il peut y avoir et des arrêts de temps en temps. Ce que l'on n'a pas avec du renouvelable. Ou même si on peut adapter certaines politiques de flexibilité ou autre, c'est un effet qui est limité. Donc on a besoin de capacités de production et on est en déficit. Déjà aujourd'hui et de plus en plus si on essaie de voir ce que l'on aura à disposition et la demande qu'il va falloir satisfaire à un moment donné.
Et donc, qui dit utilisation plus importante du nucléaire dit aussi déchets nucléaires. Est-ce que vous sauriez nous dire comment et où on stocke ces fameux déchets nucléaires en Belgique ?
Ceux qui sont hautement radioactifs sont ceux qui sont les plus ennuyeux. Ça correspond, pour donner un petit peu une idée, à la phalange d'un petit doigt par habitant de notre pays, par an, pour avoir de l'électricité. Donc c'est une quantité qui est quand même très très réduite, une fois qu'on essaie de comparer ça à des quantités d'autres déchets que l'on a. Et aujourd'hui, en fait, ce que l'on a, c'est qu'on a une partie du combustible qui est stocké sur le site de Belgoprocess, juste à côté de Mol, parce que le combustible qui a été retraité reste quand même assez chaud, et il doit diminuer en température. Et puis, il y a tout ce qui est resté aussi dans les piscines des centrales, celles qui ont arrêté leur exploitation notamment, en attendant aussi de pouvoir les gérer autrement. On a eu aussi, depuis quelques décennies, des débats qui ont pris pas mal de temps à nouveau au niveau politique pour voir si une politique d'enfouissement géologique des déchets était envisageable. Donc, il y a des quantités d'études qui ont été réalisées à ce niveau-là et les premiers pas législatifs ont été récemment franchis pour pouvoir aller dans cette direction, mais à l'horizon d'un demi-siècle environ, au mieux. On a potentiellement aussi des approches dont une partie a été utilisée jusque dans les années 90 où il y a eu un moratoire, c'est le retraitement des déchets. Donc quand on retire le combustible d'un réacteur, en fait on a encore des quantités énorme d'uranium, un peu de plutonium qui a été aussi produit dans le processus, qui peuvent être réutilisés comme combustible. Donc énorme, c'est plus de 95%.
Donc pour vous, le nucléaire, c'est une énergie d'avenir ?
Mais je pense que c'est effectivement une énergie d'avenir parce qu'on a une capacité de pouvoir produire en grande quantité de l'électricité, mais potentiellement aussi de la chaleur industrielle pour l'industrie. On est dans une technologie qui est complètement décarbonée. le bilan carbone du nucléaire est plus bas que les énergies renouvelables, surtout quand en plus la production du combustible se fait sur base d'électricité nucléaire elle-même, donc on est vraiment très très bas à ce niveau-là. Chiffre tout à fait reconnu par le GIEC notamment, donc c'est pas juste un... le secteur nucléaire qui voudrait faire de la pub, c'est vraiment bien reconnu scientifiquement. Et c'est pilotable. Donc on a la capacité de produire là où on le veut et de manière aussi beaucoup plus concentrée, puisque bah, non seulement on a cette énergie au départ qui est extrêmement concentrée, des grandes capacités, mais ça veut dire que l'empreinte au sol des centrales nucléaires par rapport au territoire complet qui devrait être couvert d'éoliennes ou de panneaux solaires, pour une même production, c'est toute petite fraction. Donc ce sont des avantages aussi qui sont très très marquants. Et à un moment donné, je pense qu'on doit aussi pouvoir retourner un petit peu le problème dans le bon sens quand on veut faire un mix énergétique. Ce n'est pas dire « Ah, il faut dogmatiquement une solution » comme on l'a fait ces dernières années, en se disant « On connecte du renouvelable, c'est ça qui passe en premier et les autres s'adaptent ». On essaie d'être un tout petit peu intelligent et on se dit « Ben, on essaie de prendre les avantages et les inconvénients des différents moyens de production d'électricité que l'on a et on les combine sur base de leurs forces et pas sur base de ce qu'on pense être bon parce qu'on a dit que c'était bon d'un côté, peu importe les raisons qu'on doit créer parfois. »
Et ben, merci beaucoup en tout cas.
Pierre-Étienne Labeau nous a donc présenté ses arguments en faveur du nucléaire, en mettant en avant ses atouts et son rôle dans notre paysage énergétique. Mais comme vous pouvez l'imaginer, tout le monde ne partage pas cet avis. Le nucléaire reste un sujet qui divise, comme vous le verrez dans la suite de l'émission. On se retrouve pour un point historique avec Flavia, juste après une courte pause musicale.
Ma chère Élise, si je vous donnais un verre d'eau avec un goût un peu... comment dire ça ? Radioactif, vous pourriez le boire jusqu'au bout ?
Alors, évidemment que non, je tiens ma vie.
Et si je vous disais que c'était pour calmer vos migraines ?
Toujours pas.
Oh, vous êtes pas drôle. Alors, je sais qu'aujourd'hui, cette conversation n'a aucun sens, mais si nous avions vécu au début du siècle dernier, elle en aurait. On connaît l'uranium et le radium comme étant des matières dangereuses à manipuler. Alors, je sais qu'on dit que c'est pas la petite qui va manger la grande, mais en l'occurrence, quand on parle de radioactivité, ouais, clairement, ouais. Aujourd'hui, c'est la peste, mais avant, c'était tout un business. Bienvenue en 1900. Il fait beau, c'est un nouveau siècle, on a découvert le radium il y a 2 ans. C'est comme les résolutions qu'on prend au nouvel an. Cette année, je deviendrai riche. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt, cette année, je serai le plus grand inventeur de tous les temps. Et visiblement, tout le monde s'est mis à la page. Allons utiliser des substances radioactives pour améliorer le quotidien de la société ? Enfin, plutôt celui des femmes, hein, parce qu'elles, on s'en fiche un peu, elles n'ont toujours pas le droit de vote. Alors pourquoi est-ce qu'on en aurait quelque chose à faire de leur santé ?
C'est clair.
Mais franchement, ça va commencer par la quête de l'éternelle jeunesse, celle qu'on cherche encore aujourd'hui. Donc, en ce moment, on a Drunk Elephant et ses crèmes au rétinol que toutes les gamines sans la moindre ride s'arrachent. Eh bien, en 1930, on avait Toradia, la crème au radium qui vous lissait le visage pour retrouver vos 20 ans. Bah oui, parce que mettre du radium sur sa peau, ça fait toujours de bons effets, c'est bien connu. C'est un peu comme le peeling chimique. Vous savez, cette technique qui consiste à brûler la peau pour faire ressortir les cellules jeunes. Bah là, c'est pareil, mais à la maison, et évidemment sans médecin au cas où ça dérape. Hein, ça, on s'en fiche un peu. Mais décidément, les industries marketing adoraient rapprocher l'humain du radioactif parce que devinez quoi ? La radioactivité, c'est chaud. Pas chaud l'expression, hein. Quoique. Non, c'est chaud parce que ça provoque de la chaleur. Et comme en 1900, on n'avait pas encore le réchauffement climatique, on tapait des moins 10, moins 15 degrés sans problème. Alors, au lieu de choper son meilleur pull en mohair, cachemire ou laine mérinos, non, on créait les premiers sous-vêtements techniques à l'uranium. Pourtant, moi je comprends pas, c'était la mode des gros manteaux, écharpes et toques en fourrure. On tue les animaux puis on se tue soi-même. Franchement, c'est une bonne idée, hein.
Donc vous êtes en train de me dire qu'il y avait des vêtements radioactifs ?
Eh oui, un joli procédé d'immersion du tissu dans un bain radioactif ou de peinture à l'uranium. Ça donne envie, n'est-ce pas ? Imaginez votre joli jean enduit. Il est stylé, il est rigide, il se tient bien, la classe ! Mais ce qui a servi pour l'enduire, eh ben, c'était une jolie peinture radioactive. Ah bah tout de suite, ça refroidit. Enfin, pas vraiment, mais bon, vous m'avez comprise. Par contre, comme on dit, mon corps, mon choix, eh bien, si la société de l'époque pense que c'est bon pour moi, alors le débardeur radioactif, allez, passe-le-moi. Là où ça commence à poser souci...
Commence ?
Ouais, commence. C'est quand on s'attaque à nos enfants, notre progéniture, la prunelle de nos yeux. Eh bien, à l'époque, pour bien protéger son nourrisson du froid glacial des contrées belges, on avait la couverture pour bébé radioactive. Vous savez, la fameuse couverture qui sert de premier doudou, que tu mets à la bouche sans vergogne parce que bah t'es qu'un bébé, et que tu gardes avec toi jusqu'à 30 ans quand il ne reste plus qu'un fil qui connecte 2 nœuds de tissu. Ouais, celle-là. Ouais, bah c'est censé devenir chaud aussi. Et comme on boit déjà de l'eau minérale radioactive, grand cru 1908, bah, c'est normal. Donc si votre enfant est toujours en bonne santé après avoir mangé sa couverture de naissance comme un Big Mac, félicitations, la vie n'a toujours pas fini d'essayer de vous tuer. Remise en contexte, tu es un petit garçon de 8 ans, d'accord ? Tu vis dans une bonne famille, ce qui te confère le droit ultime d'être un enfant et pas un ouvrier. Wouah, le rêve ! Mais ton rêve à toi, c'est de faire des trucs de grand, comme papa quand il va au travail. À Noël, on t'offre le cadeau ultime. Ton premier kit du parfait petit chimiste. Alors là, c'est l'éclate. Tu déchires le papier cadeau, t'es le plus heureux du monde. T'enfiles tes lunettes de protection et c'est parti ! Tu chopes le petit flacon, celui qui dit « attention » dessus. Il est difficile à ouvrir, alors tu forces un peu et... Oh ! Tu le renverses, sur ta main. Brûlure, hôpital et tout ce qui s'ensuit, joyeux Noël, hein, surtout. On parle beaucoup de ce qui touche notre corps, mais pas beaucoup de ce qui entre dedans, parce que oui, pourquoi pas pousser le délire encore un peu plus loin et rendre l'uranium et le radium comestibles. On a déjà fait avec l'eau, alors pourquoi pas en faire du chocolat, par exemple ? Alors, Élise, vous me connaissez personnellement, et moi, je peux tuer pour une bonne barre de chocolat. J'aurais décidément pas fait long feu au XXe siècle. Mais bon, la population de l'époque non plus, visiblement, parce que si aujourd'hui on a la pollution au mercure dans le thon, eh bien, en 1900, on donnait des aliments riches en radium au bétail. Alors, faut croire que ça remplit l'estomac d'une vache plus vite, ou enfin, je sais pas. Mais quand on sait qu'un homme, en 1930, consommait en moyenne 28 à 32 kilos de viande rouge par an, on ne s'étonne pas du nombre de cancers qui sont apparus avec les années, et surtout du nombre de végétariens.
Mais cet empoisonnement, il va s'arrêter un jour ?
Heureusement, oui. C'est à partir d'environ 1938 qu'on découvre la fission nucléaire et qu'on commence enfin à utiliser l'uranium et le radium vraiment pour la science. Mais ce qui fera vraiment arrêter l'utilisation des produits radioactifs dans le quotidien des gens, c'est la peur. En 1945, le monde découvre, en pleine guerre, l'horreur des bombes envoyées sur Fukushima et Nagasaki. Maintenant, on a peur du nucléaire. Cet épisode traumatique de l'histoire va enfin pousser les médecins à approfondir les recherches sur les effets de la radioactivité pour découvrir que, au final, c'était peut-être pas aussi bon pour la santé qu'on le croit.
Étonnant.
Et l'histoire, on la connaît, les produits radioactifs disparaissent de nos supermarchés, magasins de vêtements et des Sephora de l'époque. Donc bon, on produira quand même les flèches de montres fluorescentes jusque dans les années 60, mais à part ça, la société oubliera totalement que le radium et l'uranium ont déjà été aussi accessibles. Élise, néanmoins, si vous avez envie d'acheter un petit bout d'histoire à ramener chez vous, vous pouvez encore trouver, surtout aux États-Unis, de la vaisselle radioactive que l'on reconnaît à son aspect, vous savez, fluorescent quand on met une lumière UV dessus. Alors évidemment, à garder en tant qu'objet à admirer et pas à utiliser.
Eh bien Flavia, c'est tout un pan de l'histoire du nucléaire que j'ignorais totalement. Je vous propose maintenant d'écouter Élodie Belleflamme, conseillère politique sur les matières énergie et climat, travaillant désormais pour Greenpeace.
Est-ce que aujourd'hui vous considérez plutôt pour ou contre le nucléaire ?
Je ne me positionne pas pour ou contre le nucléaire. Moi, j'ai un objectif qui est de sortir des énergies fossiles. Ça, c'est mon objectif et c'est ce que j'étudie et c'est les différentes politiques pour y parvenir que j'analyse, que j'étudie, que je compare. Et dans ce cadre-là, j'observe que l'énergie nucléaire n'est pas optimale, tant du point de vue du coût que du point de vue du temps nécessaire pour que la technologie soit disponible sur le territoire belge et aussi au niveau des conséquences externes négatives, donc des autres conséquences en termes de radioactivité, de prolifération nucléaire, donc aussi liées aux questions d'armes et de risques géopolitiques. Donc au vu de ces différents arguments et pour répondre à l'objectif qui est le mien, qui est la sortie des énergies fossiles, j'estime qu'il y a d'autres alternatives préférables au nucléaire.
Vous pourriez un peu plus développer les avantages et les inconvénients du nucléaire ?
Donc je vais repartir justement des avantages des autres technologies. Donc rappelez que l'objectif, c'est donc de sortir des énergies fossiles. Aujourd'hui, les énergies fossiles, en Belgique, ça couvre 75% de l'énergie qu'on consomme. Le nucléaire, les réacteurs qu'on a déjà prolongés, donc qui ne sont plus remis en question, ils couvrent 4% de cette énergie. Donc pour dire, d'abord, la taille du nucléaire par rapport à l'ampleur de l'enjeu, c'est la première chose. Et donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour réussir à sortir des énergies fossiles ? Le renouvelable, les énergies renouvelables et donc l'éolien, le photovoltaïque, mais aussi toutes les technologies qui permettent d'intégrer le renouvelable dans le système, eux permettent de sortir, de quitter progressivement ces 75 autres pourcents. Donc pour moi, ce sont les technologies, enfin l'intérêt du renouvelable, c'est justement l'étendue de ce qu'elles peuvent remplacer les énergies fossiles.
Et donc, qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui au nucléaire ? Parce que c'est un des arguments avancés, qu'est-ce qu'on lui reproche ?
Moi, ce que je lui reproche d'abord, c'est d'être beaucoup plus cher que les alternatives. Donc, c'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas économiste de formation. Donc, je fais de l'analyse de politique publique. Mais donc, on regarde les études, les recherches des économistes et des personnes qui modélisent le système énergétique. Donc, ce sont deux sources principales. Sur les économistes, on regarde le coût coût du nucléaire pour produire un mégawatt-heure sur l'entièreté du cycle de vie d'un réacteur nucléaire. Donc, à partir du moment où il est construit jusqu'au moment où il est démantelé avec avec les déchets qui sont gérés et le réacteur qui est démantelé. Donc, tout ça, ça a un coût qui est remis au kilowatt-heure qu'il produit. Donc, on fait ça. On fait la même chose pour le renouvelable. Donc, on regarde le renouvelable, le temps de l'installer, de le construire, de l'installer, de le démonter. Combien est-ce que ça coûte? Et on rajoute à ça tout le coût du système, donc le réseau, tout ce qu'il faut pour intégrer le renouvelable. Et quand on regarde ça, on voit que le renouvelable est beaucoup moins cher que le nucléaire. Donc, en termes de grandeur, on est sur 40 à 80 euros par mégawatt-heure pour le renouvelable. On est entre 100 et 150 pour le nucléaire. Et alors, sur les petits réacteurs nucléaires qu'on appelle les SMR, c'est d'autant plus cher parce qu'en fait, il n'y a même pas l'économie d'échelle qu'on a avec les grands réacteurs. Plus un réacteur est petit, plus il coûte cher pour produire un mégawatt-heure. Et donc, pour moi, c'est un des avantages fondamentaux du nucléaire par rapport aux autres énergies, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup plus cher. Et alors, un autre désavantage, c'est le risque qu'il crée de par sa radioactivité. Donc, il y a aujourd'hui des critères qui sont décidés par l'Agence fédérale du contrôle nucléaire qui, sur base des recommandations internationales, dit que les réacteurs en Belgique en Belgique doivent répondre à tel et tel et tel critère de sécurité. Ces critères de sécurité, ils sont faits justement pour protéger les citoyens du risque intrinsèque du nucléaire, qui est donc sa radioactivité et son risque d'accident. Ces critères, pour moi, ne sont pas négociables. Et aujourd'hui, pour prolonger Tihange 1 qui a été mis à l'arrêt parce qu'il ne répond pas aux critères de sécurité, certains voudraient continuer à le prolonger et pour y parvenir de manière moins onéreuse, ils voudraient revoir ces critères de sécurité. Et là, pour moi, c'est une ligne rouge. Qui est les critères de sécurité, ils sont fixés justement pour répondre au risque du nucléaire et on ne peut pas les revoir.
Et un des arguments qui est avancé aussi, c'est que le nucléaire, c'est une énergie plus fiable. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça ?
Ce qu'on pourrait dire, c'est que le nucléaire produit de manière un peu plus linéaire dans le temps. Donc, que les énergies renouvelables produisent davantage. En tout cas, le photovoltaïque, quand il y a plus de soleil. Ceci étant dit, le photovoltaïque produit aussi quand il y a des nuages. Dans les nouvelles technologies, même s'il y a des nuages, le photovoltaïque produit. Et l'éolien, il faut qu'il y ait un peu plus de vent. Mais pareil, l'éolien produit quand même beaucoup. Et plus il est en mer du Nord, plus il produit longtemps, parce qu'il y a quasi tout le temps du vent en mer du Nord. On est aussi interconnecté avec les autres pays d'Europe, ce qui fait que quand il y a du soleil quelque part et qu'il fait noir ailleurs, ben, ça se compense quand même. Donc, il y a toutes ces solutions qui permettent de dire que le renouvelable est en fait tout aussi fiable, tout aussi stable que le nucléaire. Et justement, je disais, il faut remplacer ces 75%. Donc, indépendamment du fait qu'on garde ou pas le nucléaire, il faudra énormément de renouvelables en plus. Justement, le nucléaire, on n'arrive pas à le moduler. Donc, il produit toujours autant. Et en fait, ça, pour le déploiement du renouvelable, qui est essentiel indépendamment donc, du fait qu'on garde du nucléaire, ça, c'est un vrai problème du côté du nucléaire. Parce que justement, si on veut plus de renouvelables, il faut plus de flexibilité dans les autres assets de production.
Mais justement, il y a beaucoup de personnes qui sont pour le nucléaire qui avancent que c'est une énergie qui permettra de répondre à la demande et qui ont peur que les énergies renouvelables ne puissent pas répondre à une future demande. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ?
J'ai deux éléments. Le premier, c'est, vous vous rappelez des fameux 75%. À nouveau, le nucléaire, c'est 4. Donc, de toute façon, il faudra mettre du renouvelable, indépendamment du fait qu'on garde ou pas le nucléaire. Et donc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment faisons-nous pour installer ce renouvelable et qu'il reste stable et fiable. Et pour ça, il y a toute une série de mesures qui existent, qui sont testées dans d'autres pays. Donc, ça s'appelle la flexibilité, ça s'appelle le stockage, le pompage turbinage, la gestion de la demande, l'interconnexion avec les pays voisins, donc avec le foisonnement. Ce sont toutes des technologies qui existent aujourd'hui, qu'on peut mettre en place, qu'on doit mettre en place. Donc, à nouveau, indépendamment du nucléaire. Et justement, le débat nucléaire bloque toutes ces solutions alternatives qui sont essentielles, pas seulement pour ces 4%, mais pour les 75 autres qu'il faut courir très rapidement. Et alors, j'ai une petite anecdote intéressante par rapport à ça. Vous avez certainement vu qu'en Espagne, il y a eu un blackout. Donc, il y a eu une coupure d'énergie. L'heure qui a suivi, il y a toute une série de personnes pro-nucléaires et anti-renouvelables qui ont été dire dans la presse que c'était à cause des énergies renouvelables. Ça a été factuellement démontré que ce n'était pas le cas. Donc, ENSOE, qui est l'acteur de réseau européen, a démontré que ce n'était pas à cause du renouvelable, qu'il n'était pas du tout juste de mettre ce problème sur le dos du renouvelable. Mais donc là, on voit vraiment les différentes tensions entre ces deux écoles, alors qu'elles ne devraient même pas s'opposer, vu que le renouvelable est, quoi qu'il en coûte, nécessaire, puisque le renouvelable est, quoi qu'il en soit, absolument nécessaire. Et un troisième élément qui me vient à l'esprit, aujourd'hui, dans le monde, il y a environ 200 pays, il n'y en a que 30 qui ont du nucléaire. La moitié n'investit déjà plus dans de nouvelles technologies nucléaires. Tous les autres ne se posent même pas la question de est-ce que ce sera nucléaire ou renouvelable. C'est du renouvelable. Et donc, on est vraiment influencé par cette culture francophone aussi, par la France qui a énormément de réacteurs et qui effectivement compte sur ces réacteurs pour produire de l'électricité. Mais croire qu'on ne peut pas se passer du nucléaire pour avoir une transition, c'est vraiment erroné. C'est très, très lié à notre culture francophone.
Et pour terminer, à quoi ressemblerait un monde sans nucléaire et est-ce qu'il est possible de l'atteindre pour 2035 ?
Ben, parfaite conclusion, justement. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on se basait sur les travaux des économistes. On se base aussi sur des modèles, donc des modèles qui sont universitaires, qui sont académiques, qui sont indépendants pour la plupart. Il existe un modèle qui est très, très bon en Belgique, qui prend en compte tous les éléments, tous les freins, toutes les limites que vous avez citées, donc de fluctuations, du renouvelable et autres. Il s'appelle PASS 2050. C'est fait par Énergieville, donc c'est un consortium universitaire d'université flamande, où on peut voir différents scénarios, différents mix, donc autant de photovoltaïque, autant d'éolien, autant d'autres alternatives nous permet d'atteindre la décarbonation à tel moment, à tel coût. Donc tout ça, c'est déjà vraiment modélisé. Donc j'en cite un, mais il en existe vraiment beaucoup. Hein. Il en existe vraiment énormément. Donc ce sont des modèles qui montrent quelles sont les technologies les plus opportunes et plus optimales pour atteindre cet objectif. Et donc ce sera beaucoup d'éolien, beaucoup de photovoltaïque, des batteries, de la flexibilité, des interconnexions, des réseaux adaptés. Tout ça fera que ce sera possible de se passer non pas seulement des 4% dont je parlais, mais bien des 75% d'énergie fossile qu'on consomme aujourd'hui.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Un point de vue opposé au nucléaire avec Élodie Belleflamme, riche en arguments et en inquiétudes. Ce regard différent montre à quel point le sujet reste sensible et débattu. Et pour prolonger cette réflexion en musique, je vous propose maintenant d'écouter Nucléaire du groupe Odazen.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires, au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille, un jour sur deux. Le temps qui passe, sans ton visage, c'est pas heureux. J'aime pas compter, j'aime pas savoir qui gère le jeu. Jouer entre nous, ça reste jouer avec le feu. Au fond des corps, un cœur qui bat, ça se bat vieux. Et les nuages qui scindent le ciel, un peu. Le temps qui passe, ça n'a pas d'âge, ce n'est pas Dieu. Y aura de quoi faire des histoires, faire des envieux. Et au final, t'auras ta part, t'auras pas mieux. Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires, au nucléaire, j'ai le ciel vieux. Tu me ramènes quand je déraille les jours heureux. Le temps qui passe sans ton visage, c'est pas du jeu. J'aime pas compter, j'aime pas savoir qui gère le feu. Jouer entre nous, ça reste jouer avec les dieux. Au fond des corps, un cœur qui bat, ça se bat mieux. Et les nuages qui scindent le ciel. En deux, le temps qui passe, ça n'a pas d'âge, ce n'est pas peu. Y aura de quoi faire des histoires, faire des envieux. Et au final, t'auras ta part, t'auras pas de bleu.
Pour terminer cette dernière partie d'émission, je vous propose une petite parenthèse culturelle. 4 minutes pour vous donner quelques anecdotes et derniers faits sur le nucléaire.
Alors pour commencer, direction les États-Unis avec un record assez impressionnant, le cratère de Sedan, tout simplement le plus grand cratère américain jamais créé par l'homme. Un cratère immense, formé lors d'un essai de bombe nucléaire en plein désert. Et à l'époque, ces essais ne se faisaient pas dans le secret le plus total. Bien au contraire, ils donnaient lieu à de véritables spectacles, notamment dans l'état du Nevada, une époque qui montre que déjà, le nucléaire fascinait autant qu'il inquiétait. Restons aux États-Unis avec une histoire assez incroyable, celle du radioactif Boy Scout, David Hahn. En 1994, à seulement 17 ans et membre des Boy Scouts of America, il tente de construire un réacteur nucléaire. Mais pas n'importe où, dans un hangar, dans son jardin, près de Détroit, rien que ça. Une expérience pour le moins risquée, puisqu'il est très probable qu'il ait été exposé à des doses importantes de radiation au cours de ses essais. Une fois repéré par le FBI, le nettoyage de ces déchets nucléaires aurait coûté pas moins de 60 000 dollars.
Donc on peut dire qu'il y a une vraie fascination pour le nucléaire depuis de nombreuses années.
Et oui, et cette fascination du nucléaire ne s'arrête pas là, étant donné qu'il a aussi énormément inspiré la culture populaire. On le retrouve au cinéma, avec le film Oppenheimer, un carton au box-office, mais aussi dans des séries comme Tchernobyl, qui raconte avec réalisme l'accident nucléaire. Et c'est justement dans cette catastrophe que l'on trouve le fameux pied d'éléphant, ce morceau de combustible fondu qui a engendré l'endroit le plus radioactif du monde. Et puis, il y a Godzilla, ce monstre japonais qui est en réalité une allégorie directe des armes nucléaires. Et autre surprise, la célèbre chanson Vamos a la Playa parle en réalité d'une explosion d'une bombe atomique. Revenons maintenant sur quelques chiffres. À l'échelle mondiale, on compte aujourd'hui environ 417 réacteurs nucléaires en fonctionnement, répartis dans 31 pays, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. De quoi produire une quantité d'énergie absolument colossale, capable d'alimenter des centaines de millions de foyers à travers le monde. Et pourtant, en Europe, le nucléaire n'est pas partout une évidence, comme on a pu en discuter plus tôt. Pour préciser, la Pologne, la Lituanie, l'Estonie ou la Norvège ne possèdent pas de centrales nucléaires, et certaines îles, comme Chypre ou l'Islande, n'en sont pas équipées. Et saviez-vous qu'en Belgique, le nucléaire ne sert pas uniquement à produire de l'électricité ? Il est aussi au cœur de la médecine moderne. La médecine nucléaire utilise de très faibles doses de radioactivité pour observer, en temps réel, le fonctionnement des organes et des tissus du corps humain. Aujourd'hui, environ 5000 personnes travaillent dans ce domaine en Belgique, contribuant chaque jour à diagnostiquer et soigner de manière plus précise. Et pour finir sur une note vraiment surprenante, les bananes seraient légèrement radioactives. Oui, vous avez bien entendu. À tel point qu'elles peuvent parfois déclencher certains portiques de sécurité. Pourquoi ? Eh bien parce que les bananes sont naturellement très riches en potassium et contiennent donc plus de potassium 40, un isotope radioactif naturel. Rien de dangereux, rassurez-vous, mais de quoi regarder votre fruit préféré d'un œil complètement nouveau.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission consacrée au nucléaire.
Un sujet complexe, fascinant, parfois inquiétant, mais surtout très actuel.
Au fil de cette émission, on a voyagé entre passé et présent, entre faits scientifiques et anecdotes surprenantes.
On a découvert comment fonctionne cette énergie, les débats qu'elle suscite, mais aussi les réalités concrètes, ici en Belgique et ailleurs dans le monde.
Entre ceux qui voient dans le nucléaire une solution face aux défis climatiques et ceux qui alertent sur ses risques et ses limites, une chose est sûre, le débat est loin d'être terminé.
Mais au-delà des opinions, comprendre le nucléaire, c'est déjà se donner les moyens de se forger sa propre vision. Et c'était tout l'objectif de cette émission.
Merci de nous avoir suivis, merci également à nos intervenants pour leur expertise.
On espère vous avoir mieux fait comprendre un phénomène complexe. Très belle journée à toutes et à tous.
Et à très bientôt sur Radio Campus. Das sowas von so
gibst.